Elle m'attendait, comme elle l'avait promis, allant et venant avec lenteur dans la rue déserte. Sa taille élevée et gracieuse, sa belle figure, son teint éclatant, ses cheveux d'un blond doré, ses grands yeux gris, recevaient des rayons de la lune, tout juste la quantité de clarté qui leur seyait le mieux. On l'eût prise difficilement pour une mortelle quand elle se retourna pour me parler. « Eh bien, dit-elle, que voulez-vous de moi ?» En dépit de mon orgueil, ou de ma réserve, ou de mon bon sens, ou de tout ce que vous voudrez, tout mon cœur lui appartint dès ce moment. Je lui saisis les mains et lui avouai ce que je pensais, aussi franchement que si je la connaissais depuis son enfance. « Vous avez le projet de mettre fin à vos jours, lui dis-je, et je veux vous en empêcher. Si je vous suis pendant toute la nuit, vous ne pourrez exécuter ce funeste dessein. » Elle se mit à rire. « Vous avez vu vous-même que le docteur ne veut pas me vendre de laudanum. Vous importe-t-il réellement que je vive ou que je meure ?» Elle pressa doucement mes mains en m'adressant cette question. Ses yeux cherchèrent les miens avec un regard languissant qui pénétra dans mon cœur comme une flamme ardente. Ma voix mourut sur mes lèvres, je ne pus lui répondre. Elle me comprit malgré mon silence. « Vous m'avez donné l'envie de vivre en me parlant avec bonté, » dit-elle. « La bonté a un merveilleux effet sur les femmes, les chiens et tous les animaux domestiques. Les hommes seuls échappent à son influence. « Tranquillisez-vous, je vous promets de prendre autant de soin de moi que si j'étais la plus heureuse des femmes. Je ne veux pas vous tenir plus longtemps hors de chez vous. Quel chemin suivez-vous ? » Malheureux que j'étais, j'avais encore oublié ma mère en tenant le médicament qui lui était destiné dans ma main. « Je retourne à la maison, dis-je. Où demeurez-vous ? À l'auberge ?» Elle rit d'un rire amer et, indiquant la carrière, « Voilà mon auberge pour cette nuit, dit-elle. Quand je serai fatiguée de rôder aux alentours, j'irai m'y reposer. » Nous fîmes route ensemble dans la direction du cottage de ma mère. Je pris la liberté de lui demander si elle n'avait pas d'amis. « Si je pensais qu'il me restât un ami, vous ne m'auriez pas rencontré dans ce village. Celui que je regardais à tort comme tel m'a fermé sa porte il n'y a que quelques heures et ses domestiques m'ont menacé de la police. » Je n'avais aucun endroit où aller après avoir parcouru sans profit votre voisinage. Je ne possède que la pièce de 2 shillings que j'ai offerte au docteur et les haillons que je porte sur moi. Quel aubergiste respectable voudrait me recevoir dans sa maison ? J'ai erré au hasard, me demandant quel chemin je pourrais trouver pour sortir de ce monde, sans me défigurer et sans trop souffrir. Vous n'avez pas de rivière dans ces environs. Je ne savais comment en finir avec la vie quand je vous ai vu sonner à la porte du docteur. Je jetai un coup d'œil sur les bouteilles de son laboratoire quand il vous fit entrer et je pensai tout de suite au laudanum. Qu'alliez-vous faire là? Pour qui est ce médicament? Pour votre femme? Je ne suis pas mariée. Elle rit de nouveau. Point mariée? Si j'étais un peu mieux vêtue, il pourrait y avoir une chance pour moi. Où demeurez-vous? Ici? Nous venions d'arriver en ce moment à la porte de ma mère. Elle me tendit la main pour me dire adieu. Sans feu ni lieu, comme elle l'était, elle ne m'avait pas demandé une seule fois de lui donner un asile pour la nuit. Ce fut moi qui lui proposai de passer cette nuit sous mon toit, à l'insu de ma mère et de ma tante. Notre cuisine a été construite séparément du cottage et par derrière. L'inconnu pouvait y rester sans être vu ni entendu jusqu'au matin. Je la conduisis dans cette cuisine, je plaçai un fauteuil pour elle auprès des cendres encore chaudes du foyer. Je dois avouer que j'étais digne de blâme, mais je demanderai ce que vous auriez fait à ma place. Sur votre parole d'homme d'honneur, dites-le-moi, auriez-vous laissé cette belle créature aller chercher un asile dans la carrière comme un chien errant? Que Dieu soit en aide à la femme qui serait assez folle pour avoir confiance en un homme capable d'une telle cruauté. Et pour l'aimer, je la laissai auprès du feu et me rendis dans la chambre de ma mère. Si vous avez jamais éprouvé une douleur de cœur, vous comprendrez ce que je souffris en secret quand ma mère, me prenant la main, me dit « Je suis désolée, Francis, d'avoir troublé le repos de ta nuit. » Je lui donnai le médicament et j'attendis près d'elle que sa crise fût passée. Ma tante alla se coucher et ma mère et moi nous restâmes seuls. je remarquai que le pupitre, retiré de sa place ordinaire, était sur le lit auprès d'elle. Elle vit que je regardais ce pupitre. « C'est aujourd'hui l'anniversaire de ta naissance, Francis, » dit-elle. « As-tu quelque chose à me dire ?» J'avais si complètement oublié mon rêve de l'auberge que je n'eus aucune idée de ce qui pouvait se passer dans l'esprit de ma mère quand elle m'adressa cette question. Pendant un instant, j'éprouvai la crainte qu'elle ne se doutât de quelque chose. Je me détournai et lui répondis « Non, mère, je n'ai rien à te dire. » Elle me fit signe de me pencher sur son oreiller et de lui donner un baiser. « Dieu te bénisse, mon cher enfant, » dit-elle, « et puisses-tu voir pendant de nombreuses années le retour heureux de cet anniversaire. » Elle me donna une petite tape sur la main, ferma ses yeux fatigués et ne tarda pas à tomber dans un calme sommeil. Je redescendis à la dérobée l'escalier. J'appuyai ma main sur la porte fermée de la cuisine en hésitant. Aurais-je réellement échappé à la tentation que j'éprouvais si j'avais été laissé libre de me décider? Qui peut le dire? Toujours est-il que je ne demeurais pas libre de me décider. Elle m'entendit et ouvrit la porte de la cuisine. Mes yeux et les siens se rencontrèrent. C'en était fait de mon hésitation. Nous nous trouvâmes seuls, sans que personne ne le soupçonnât, sans que personne ne nous troublât, durant les 2 heures qui suivirent. Ce temps lui suffit pour me révéler le secret de sa vie, si tristement dissipé. Ce temps lui suffit pour prendre pleinement possession de moi, pour faire de moi ce qu'elle voulut. Il est à peine nécessaire d'insister sur les infortunes qu'il avait fait tomber si bas sur l'échelle sociale. Ce sont des infortunes trop vulgaires pour intéresser personne. Son nom était Alice Warlock. Elle était née et avait été élevée au sein d'une famille noble. Mais elle avait perdu sa position, sa réputation, ses amis. La vertu frémissait à sa vue, le vice s'était emparé d'elle pour le reste de ses jours. C'est choquant, c'est vulgaire, ce qui est tout un pour moi. Je l'ai déjà dit, je le répète, j'étais sous la puissance d'un charme. Y a-t-il là quelque chose de bien étonnant? Rappelez-vous qui j'étais? Parmi les femmes honnêtes de ma classe, où aurais-je trouvé sa pareille? Qui avait sa démarche? Qui avait son grand air? Qui savait mieux appuyer un baiser sur mes lèvres? Qui savait rire comme elle? Qui avait une peau, un pied, une main, un toucher comparable à sa peau, à son pied, à sa main, à son toucher? Elle n'avait pas la moindre tache sur elle. Je vous assure qu'elle exhalait de toute sa personne un véritable parfum naturel. Quand elle m'embrassait, ses bras m'entouraient comme les 2 ailes d'un ange et son sourire répandait autour de moi un éclat semblable à celui du soleil dans le firmament. Je vous permets de rire ou de vous récrier en m'écoutant, selon votre caractère. Je n'essaie pas de m'excuser, j'essaie de vous expliquer ce que je ressentais. Vous êtes des gens bien nés. Ce qui m'éblouissait et me rendait fou, vous en faites chaque jour l'expérience. Être déchu ou non déchu, ange ou démon, je ne puis que dire ceci, c'était une vraie dame et je n'étais qu'un palefrenier. Avant que les gens de la maison fussent sur pied, je la fis partir par le train des travailleurs pour une grande ville manufacturière de notre district. Là, à l'aide de mes économies, elle pouvait se refaire un trousseau décent et se loger parmi des inconnus qui ne songent pas à faire des questions à leurs hôtes aussi longtemps qu'ils sont exactement payés. Là, tantôt sous un prétexte et tantôt sous un autre, je pouvais lui faire visite et nous pouvions tracer le plan de notre future existence. Je n'ai pas besoin de vous dire que je m'engageais à en faire ma femme. Un homme dans ma situation épouse toujours une femme placée dans la sienne. Vous demandez-vous avec étonnement si j'étais heureux à cette époque? J'aurais été parfaitement heureux n'avait été cette petite circonstance. Je ne me sentais jamais entièrement à mon aise en présence de ma fiancée. Je ne veux pas dire que je fusse timide devant elle, ou que je n'eusse pas confiance en elle, ou que j'éprouvasse quelque honte d'elle. Le malaise dont je parle provenait d'un doute que je ne pouvais chasser de mon esprit. Il me semblait que je l'avais vue quelque part avant notre rencontre nocturne dans la maison du docteur. Je me demandais, avec un étonnement de plus en plus grand, si sa figure ne me rappelait pas une autre figure qui ne m'était pas inconnue. Mais quelle était cette autre figure? C'est ce que je ne pus jamais trouver. Cet étrange sentiment, cette unique question que je ne pouvais résoudre, me tourmentait à un degré que vous sauriez difficilement vous imaginer. J'en étais préoccupé à tous les moments, mais le plus souvent le soir, quand les chandelles étaient allumées. Vous savez ce que c'est que de tenter de se rappeler un nom qui vous est sorti de la mémoire et de ne pas y réussir malgré tous les efforts qu'on fait pour le retrouver. Au bout de 3 semaines, nous avions arrêté notre plan et décidé comment je devais m'y prendre pour le réaliser. Par le conseil d'Alice, je devais la présenter comme ayant été au service de mes excellents maîtres à Londres en même temps que moi. Il n'y avait plus à craindre maintenant que l'effet produit sur ma mère par une grande surprise eût aucune suite fâcheuse. Sa santé s'était raffermie dans cet intervalle de 3 semaines. Le premier soir où elle fut en état de reprendre son ancienne place à l'heure du thé, je pris mon courage à deux mains et je lui dis que je songeais à me marier. Ma pauvre mère jeta ses bras autour de mon cou et poussa un cri de joie. « Ah, Francis, dit-elle, comme je suis heureuse de penser que tu auras quelqu'un auprès de toi pour t'encourager et prendre soin de toi quand je n'y serai plus. » Quant à ma tante, vous pouvez deviner ce qu'elle fit sans que je vous le dise. S'il y avait eu réellement quelque vertu prophétique dans les cartes, quel terrible avertissement elle nous aurait donné ce soir-là. Il fut décidé que j'amènerais ma fiancée pour dîner au cottage le jour suivant. J'avoue que j'étais très fière d'Alice quand je l'introduisis, à l'heure convenue, dans notre petit parloir. Elle ne m'avait jamais paru aussi belle que ce jour-là. Je n'ai jamais pris garde à la toilette d'aucune autre femme. Je remarquais la sienne aussi soigneusement que si j'avais été une femme moi-même. Elle portait une robe de soie noire, avec un col et des manchettes unies, un modeste chapeau couleur de lavande, avec une rose blanche placée sur le côté. Ma mère, vêtue de son costume des dimanches, se leva tout émue pour souhaiter la bienvenue à celle qui allait devenir sa belle-fille. Elle fit quelques pas vers elle, en souriant à la fois et en pleurant. Elle fixa Alice et soudain demeura immobile. Ses joues devinrent tout à coup blanches comme son linge. Ses yeux semblèrent saisis d'horreur, ses mains tombèrent sans force à ses côtés. Elle chancela et s'affaissa dans les bras de ma tante qui se trouvait derrière elle. Ce qu'elle éprouvait n'était pas un évanouissement, car elle conservait toute sa connaissance. Ses yeux se détournèrent lentement d'Alice et se fixèrent sur moi. « Francis, me dit-elle, la figure de cette femme ne te rappelle-t-elle aucun souvenir ?» Avant que je puisse répondre, elle m'indiqua du doigt son pupitre placé sur la table auprès du foyer. « Apporte-le » s'écria-t-elle, « apporte-le !» À ce moment, je sentis la main d'Alice se poser sur mon épaule et je vis sa figure rouge de colère. Il n'y avait pas lieu de s'en étonner. « Qu'est-ce que cela signifie ? Me dit-elle. « Votre mère veut-elle m'insulter ?» Je dis quelques mots pour la calmer, mais ce que je lui dis a fui complètement de ma mémoire, tant je me sentais confuse et étonnée en même temps. Avant d'avoir achevé, j'entendis ma mère derrière moi. Ma tante était allée chercher le pupitre de ma mère, qui l'avait ouvert et en avait retiré un papier. Pas à pas, s'appuyant le long du mur, elle s'approcha de plus en plus d'Alice en tenant le papier dans sa main. Elle regardait tour à tour ce papier et le visage d'Alice. Elle leva la longue manche flottante de la robe de celle-ci, dont elle examina la main et le bras. Je vis soudain la crainte prendre alors la place de la colère dans les yeux d'Alice. Elle se débarrassa vivement de la main de ma mère qui l'étreignait. « Mais elle est folle !» se dit-elle à elle-même, « et Francis ne me l'avait pas dit !» En prononçant ces mots, elle s'empressa de sortir du parloir. Je m'élançai après elle quand ma mère me fit signe de rester. Elle lut tout haut les mots écrits sur le papier. Tandis qu'ils tombaient lentement et l'un après l'autre de ses lèvres, elle indiquait du doigt la porte ouverte. Yeux gris clair, avec une larme dans la paupière gauche, cheveux blonds avec une bande d'un jaune d'or, bras blancs couverts d'un léger duvet, petites mains de femme dont les ongles sont bordés d'une ligne d'un rouge rosé. C'est la femme que tu as vue en rêve, Francis, la femme que tu as vue en rêve. Quelque chose obscurcit la fenêtre du parloir au moment où ces mots étaient prononcés. Je me tournai vers la fenêtre, Alice était revenue. Elle nous regardait à travers la jalousie. C'était bien la fatale figure qui m'était apparue une première fois dans la chambre à coucher de l'auberge isolée où je m'étais arrêté naguère. Là, posée sur la jalousie, se laissait voir la petite main qui avait tenu le couteau meurtrier. J'avais vu cette femme avant que nous ne nous fussions rencontrés dans le village. C'était bien la femme que j'avais vue en rêve, c'était bien elle. Je ne compte pas que personne approuve ce que je vais maintenant raconter de mon histoire. 3 semaines après le jour où ma mère constata l'identité de ma fiancée avec la femme que j'avais vue en rêve, je conduisis Alice à l'église et j'en fis ma femme. J'étais ensorcelée, je ne puis trop le redire, absolument ensorcelée. Pendant ces 3 semaines, notre petit ménage du cottage se dispersa. Ma mère et ma tante se querellèrent. Ma mère, croyant au songe, me suppliait de rompre mon projet de mariage avec Alice. Ma tante, croyant aux cartes, insistait pour que je le misse à exécution. Cette différence d'opinion produisit une dispute entre les deux sœurs, dans laquelle ma tante, ne se doutant nullement de la nature superstitieuse des siennes, recourut encore à ses cartes. Elles me prophétisèrent que je trouverais le bonheur dans ma prochaine vie conjugale. Sur quoi, ma tante demanda à ma mère si une personne autre qu'un aveugle païen pouvait être assez fou, après avoir vu les prédictions de ses cartes, pour avoir la moindre foi dans un rêve. C'en était trop, naturellement, pour la patience de ma mère. De dures paroles furent échangées de part et d'autre. Madame Chance s'en retourna, courroucée, chez ses amis d'Écosse. Elle me laissa par écrit un tableau exact de mon avenir, tel que le lui avaient révélé ses cartes, et, en même temps, l'adresse à laquelle on manda sur la poste pourrait lui parvenir sûrement. « Le jour n'est pas loin, remarqua-t-elle, où Francis pourra se rappeler ce qu'il doit faire pour sa tante qui a vécu honorablement depuis son veuvage avec une pauvre rente de 30 livres par an. » S'étant refusée à donner son consentement à mon mariage, ma mère refusa aussi d'assister à la cérémonie nuptiale et de visiter ensuite ma femme. Il n'y avait, du reste, au fond de cette conduite, aucune colère contre Alice. Mais, croyant au songe, elle avait simplement une crainte mortelle de ma femme. Je compris cela et je lui fis une pension. Pas un mot fâcheux ne s'ensuivit entre nous. Le seul souvenir heureux qui me reste maintenant de cette époque, c'est que, malgré ma désobéissance aux volontés de ma mère, à l'occasion de mon mariage, j'ai aimé et respecté jusqu'à la fin cette excellente mère. Quant à ma femme, elle ne manifesta aucun regret de la séparation. Par un consentement mutuel, nous avons toujours gardé le silence à ce sujet. Nous nous établîmes dans la ville manufacturière dont j'ai déjà parlé. Nous y fondâmes une maison meublée. Mon ancien et bon maître, à ma demande, voulut bien amortir ma pension annuelle en m'en faisant remettre le capital. Cela nous mit en état de louer une maison convenable et de la meubler décemment. Pendant un certain temps, les choses allèrent bien et je puis dire qu'à cette époque, ma vie était celle d'un homme heureux. Mes infortunes commencèrent avec le retour des douleurs dont ma mère avait déjà souffert. Le docteur avoua, quand je le consultai, qu'elle était alors en danger. Naturellement, en apprenant cela, j'allai pendant quelque temps habiter auprès d'elle, au cottage. Naturellement aussi, je laissais la direction des affaires et le soin de la maison pendant mon absence à ma femme. Peu à peu, je remarquai qu'elle n'était plus la même à mon égard. Tandis que je n'étais pas là, elle recevait des gens d'un caractère équivoque et d'une conduite irrégulière. Un jour, j'observai quelque chose dans ses manières qui me fit concevoir, malgré moi, le soupçon qu'elle avait bu outre mesure. À la fin de la semaine, mon soupçon devint une certitude. En fréquentant des ivrognes, elle avait pris elle-même l'habitude de l'ivrognerie. Je fis ce qu'un mari pouvait faire pour la retenir sur cette pente funeste. Ce fut en vain. Elle ne m'avait jamais rendu réellement l'amour que je ressentais pour elle. Je n'exerçais sur elle aucune influence. Je ne pus la détourner de son penchant. Ma mère, apprenant ce fâcheux état de choses, résolut d'essayer ce que son influence pourrait obtenir d'elle. Malade comme elle l'était, je la trouvai un jour habillée et prête pour sortir. « Je ne suis pas destinée à rester longtemps encore sur cette terre, Francis, dit-elle. Je ne mourrai pas contente si je n'ai pas fait de mon mieux pour te rendre heureux après moi. Je veux faire cesser, si je puis, les craintes que j'éprouve et aller avec toi voir ta femme. Je veux essayer si je puis la ramener dans la bonne voie. Conduis-moi chez toi, Francis. Laisse tenter ce que je puis faire pour venir en aide à mon fils avant qu'il ne soit trop tard. » Comment pouvais-je lui refuser cette satisfaction ? Nous prîmes le chemin de fer conduisant à la ville. C'était un trajet d'une demi-heure seulement. Nous arrivâmes à ma maison à 1 heure de l'après-midi. C'était l'heure de notre dîner et Alice était dans la cuisine. J'installai ma mère dans notre parloir et j'allai ensuite préparer ma femme à la visite de sa belle-mère. Elle n'avait encore bu que peu à cette heure médiocrement avancée du jour et, par bonheur, le démon qui la possédait la laissait tranquille en ce moment. Elle me suivit au parloir et l'entrevue avec ma mère se passa mieux que je n'avais osé l'espérer. Seulement, je dois dire que ma mère, malgré ses efforts pour se contenir, ne put prendre sur elle de regarder ma femme en face toutes les fois qu'elles se parlèrent. Je me sentis soulagée quand Alice commença à préparer la table pour le dîner. Elle mit la nappe, apporta le pain, dont elle coupa quelques tranches pour nous, dans la corbeille destinée à les recevoir. Ensuite, elle retourna à la cuisine. En ce moment, tandis que je veillais toujours avec inquiétude sur l'état de ma mère, je tressaillis en voyant reparaître sur sa figure la pâleur extrême qui s'y était montrée le matin où elle avait reçu la visite d'Alice. Avant que je pusse lui adresser un seul mot, elle se leva précipitamment et sembla saisie de terreur. « Sortons d'ici, ramène-moi au cottage, Francis, et ne me quitte plus !» Je craignis de lui demander sur le champ une explication. Je pus seulement lui faire signe de se taire et me hâter de la conduire vers la porte. En passant devant la corbeille au pain qui était sur la table, elle s'arrêta et me l'indiqua du doigt. « As-tu vu avec quoi ta femme a coupé le pain ?» me demanda-t-elle. « Non, mère, je n'y ai pas fait attention. Avec quoi ?»« Regarde !» Je regardai. Un couteau poignard encore neuf, avec un manche en corne de cerf, était dans la corbeille à pain avec les tranches qu'il avait servi à couper. J'étendis la main pour m'en saisir. Au même instant, j'entendis du bruit dans la cuisine et ma mère me saisit par le bras. « Le couteau du rêve, Francis! Je tremble d'effroi! Sortons d'ici avant qu'elle ne revienne !» Je ne pus dire un seul mot pour la calmer ou seulement pour lui répondre. Exempt, comme je le suis, de toute superstition, la vue de ce couteau me fit frissonner malgré moi. J'aidai ma mère à sortir de la maison et je la reconduisis au cottage. Je lui tendis la main pour lui dire adieu. Elle essaya de me retenir. « Ne retourne pas chez toi, Francis, ne retourne pas chez toi !»« Il faut que je m'empare de ce couteau, mère, il faut que je m'en retourne par le train le plus prochain. » Je ne me départis pas de cette résolution, je pris le premier train qui put me ramener à la ville. Ma femme s'était, comme de raison, aperçue de notre départ secret. Elle s'était mise à boire et elle ne se tenait pas de colère quand j'arrivais. Le dîner avait été jeté aux ordures, la nappe avait été retirée de la table. Où était le couteau ? Je fus assez peu sensée pour le demander. Elle refusa de me le donner. Dans le cours de la dispute qui s'ensuivit entre nous, je découvris qu'une horrible histoire se rattachait à ce couteau. Il avait servi à commettre un meurtre il y a plusieurs années et avait été si soigneusement caché que les autorités judiciaires furent dans l'impossibilité de le produire devant le tribunal. Avec l'aide de quelques-uns de ses amis d'une réputation équivoque, ma femme avait pu acquérir cette relique criminelle. Sa nature perverse y attachait une valeur inexplicable. Voyant que je ne pouvais espérer de m'en saisir ouvertement, je résolus de le chercher, plus tard, en secret. Mes recherches furent infructueuses. La nuit vint et je sortis pour errer par les rues. Vous comprendrez alors dans quel abattement je me trouvais alors quand je vous dirai que j'eus peur de dormir dans la même chambre que ma femme. 3 semaines s'écoulèrent. Elle se refusa toujours à me donner le couteau et je continuai à craindre toujours de coucher dans la chambre où elle couchait. J'errai pendant la nuit où je sommeillais dans le parloir ou bien encore j'allais veiller dans un fauteuil auprès du lit de ma mère. Avant la fin de la première semaine du mois suivant, le plus grand des malheurs me frappa, ma mère mourut. C'était peu d'heures avant l'anniversaire de ma naissance. Elle avait aspiré à vivre jusqu'à ce jour. j'étais présent quand elle expira. Ses derniers mots dans ce monde furent pour moi. « Ne retourne pas chez toi, mon fils, me dit-elle, ne retourne pas chez toi !» Je fus obligé pourtant d'y retourner, ne fût-ce que pour surveiller ma femme. Dans les derniers jours de la maladie de ma mère, ma femme avait, en haine de moi, ajouté un nouveau grief à ceux que j'avais déjà contre elle, en déclarant qu'elle revendiquait son droit d'assister aux funérailles de sa belle-mère. En dépit de tout ce que je pus faire ou dire, elle tint parole. Au jour fixé pour l'enterrement, elle pénétra de force jusqu'à moi, rouge de vin, et jura sans honte qu'elle se joindrait au cortège funèbre et suivrait le cercueil de ma mère jusqu'à la tombe. Cette dernière insulte, après toutes celles que j'avais déjà supportées, comblait la mesure. Elle me mit hors de moi. Soyez indulgent pour un homme ainsi poussé à bout, je la frappai. À l'instant même où je portais la main sur elle, je m'en repentis. Elle alla se blottir silencieuse dans un coin de la chambre et me regarda d'un air qui refroidit à l'instant mon sang échauffé. Ce n'était pas le moment de penser à reconnaître mon tort. Je pus seulement prendre le parti, et c'était le pire, de m'assurer d'elle jusqu'à la fin de la cérémonie en l'enfermant sous clé dans sa chambre. Quand je revins, après avoir vu la tombe de ma mère se refermer sur sa dépouille mortelle, je trouvai Alice assise à côté de son lit. Son visage et son attitude n'étaient plus les mêmes. Elle avait un paquet sur ses genoux. Elle me regarda tranquillement et me parla avec une voix remarquablement calme, un regard et des manières composées, étranges et qui n'avaient rien de naturel. « Aucun homme ne m'a jamais frappé jusqu'ici. Mon mari n'aura pas une seconde occasion de le faire, dit-elle. Ouvrez la porte et laissez-moi sortir. » Elle passa devant moi et quitta la chambre. Était-ce tout de bon qu'elle agissait ainsi? Je veillai toute la nuit en l'attendant. Aucun bruit de pas ne se fit entendre près de la maison. La nuit suivante, accablé de fatigue, je m'étendis sur le lit sans me déshabiller, après avoir fermé ma porte, déposé la clé sur ma table et pris la précaution de laisser ma chandelle allumée. Mon sommeil ne fut pas une seule fois troublé. La troisième nuit, la quatrième, la cinquième, la sixième se passèrent sans que rien n'arrivât. Le septième jour, craignant toujours que quelque incident ne vînt interrompre mon repos, je m'étendis en conservant mes vêtements, en fermant ma porte, dont je déposai encore ma clé sur la table et en prenant la précaution de laisser brûler ma chandelle. Deux fois mon sommeil fut troublé sans que j'éprouvasse pourtant aucun malaise. Mais la troisième fois, l'horrible frissonnement que j'avais ressenti durant la nuit passée dans l'auberge isolée, cette effroyable défaillance qui l'avait suivie, reparurent et me réveillèrent subitement. Je dirigeai mes yeux vers le côté gauche de mon lit, et là, se tenait debout et me regardant, la femme que j'avais vue dans mon rêve de l'auberge, non, mais ma propre femme, ayant exactement la figure de celle de mon rêve, ayant la même attitude, son bras levé, le couteau dans sa délicate main blanche. Je sautai sur elle à l'instant, mais pas assez vite pour l'empêcher de cacher son couteau. Sans lui dire un mot, sans qu'elle poussât un cri, je la clouai sur un fauteuil d'une main, je relevai sa manche droite de l'autre, et là, à l'endroit où la femme de mon rêve avait caché son couteau, ma femme avait caché le sien, le couteau à manche de corne de cerf qui semblait neuf. Je ne me rendis pas compte, au moment où je fis cette découverte, de ce que je ressentis, et je ne saurais le dire maintenant. Je fixai mes yeux sur elle avec fermeté, en tenant son couteau dans ma main. « Vous voulez me tuer ? » dis-je. « Oui, répondit-elle, je veux vous tuer. » Elle croisa les bras sur sa poitrine et me regarda froidement en face. « Et je le ferai, ajouta-t-elle, avec ce couteau. » Je ne sais pas ce que je ressentis alors. Je vous jure que je ne suis pas lâche. Et cependant, je me comportais comme un lâche. La peur s'empara de moi. Je ne pus regarder ma femme en face. Je ne pus lui adresser la parole. Je la laissai là, tenant toujours son couteau dans ma main, et je m'élançai dans la rue au milieu de la nuit. Un vent glacial soufflait dehors et l'air était imprégné d'une forte odeur de pluie. L'horloge de l'église sonna un quart quand je passai devant les dernières maisons de la ville. Je demandai au premier agent que je rencontrai quelle était l'heure dont le quart venait de sonner. L'agent regarda sa montre et me répondit « 2 heures ». 2 heures du matin. Quel était le quantième du mois? Je comptai les jours qui s'étaient écoulés depuis les funérailles de ma mère, et je vis que l'horrible parallèle entre le rêve et la réalité était complet. C'était le jour anniversaire de ma naissance. Avais-je réellement échappé au péril de mort que mon rêve m'avait prédit, ou bien venais-je de recevoir seulement un second avertissement? À l'instant où ce doute traversait mon esprit, je m'arrêtai. J'étais sur le point de sortir de la ville. Le grand air m'avait ranimé. Je me sentais jusqu'à un certain point en possession de moi-même. Après avoir un peu réfléchi, je commençais à comprendre la faute que j'avais commise en laissant ma femme libre d'aller où elle voulait et de faire ce qui lui plaisait. Je revins aussitôt sur mes pas vers ma maison. Il faisait encore nuit. J'avais laissé la chandelle allumée dans la chambre à coucher. Quand je regardais la fenêtre de cette chambre, je n'y vis plus de lumière. Je m'approchai de la porte, que je me rappelais avoir fermée en sortant, je la trouvai ouverte. Sans perdre la maison de vue, j'attendis au dehors qu'il fît jour. Alors, je m'aventurai dans l'intérieur, j'écoutai et n'entendis aucun bruit. Je visitai la cuisine, le lavoir, le parloir, je n'y trouvai personne. Je montai l'escalier et arrivai enfin dans la chambre à coucher. Elle était vide. Un rossignol, abandonné sur le parquet, me fit comprendre comment ma femme avait pénétré, pendant la nuit, dans ma chambre. Ce fut le seul indice qu'eût laissé de sa visite la femme de mon rêve. J'attendis chez moi l'heure où les habitants de la ville sont debout et vaquent à leurs affaires. Je me rendis alors chez un homme de loi pour le consulter. Dans le trouble où se trouvait alors mon esprit, je n'avais pas une idée claire de ce que je me proposais de faire. J'étais résolu à vendre ma maison et à quitter le voisinage. Mais il se présenta des obstacles que je n'avais point prévus. On m'apprit que j'avais des créanciers qu'il me fallait satisfaire avant de quitter ma maison, moi qui chaque semaine remettais régulièrement à ma femme le montant des notes que je pouvais devoir. Les informations que je pris me firent découvrir qu'elle avait détourné à son profit personnel tout l'argent que je lui avais confié dans ce but. Je n'avais d'autre alternative que payer de nouveau. Placé dans cette fâcheuse position, mon premier devoir fut de remettre de l'ordre dans mes affaires avec l'aide de mon homme de loi. Pendant mon séjour forcé dans la ville, je fis 2 choses peu sensées et qui eurent pour conséquence que j'entendis encore parler, mais pour la dernière fois, de ma femme. En premier lieu, après m'être emparé du couteau, j'eus l'imprudence de le mettre dans ma poche. En second lieu, ayant quelque chose d'important à communiquer à mon homme de loi, à 1 heure assez avancée de la soirée, je me rendis chez lui, après la chute du jour, seul, à pied. J'y arrivai sans accident. Mais à mon retour, 2 hommes me saisirent par derrière, me traînèrent dans un passage obscur, me prirent non seulement l'argent que j'avais sur moi, mais encore le couteau. L'homme de loi pensa, et je pensai comme lui, que les voleurs étaient du nombre des mauvaises connaissances de ma femme et qu'ils m'avaient attaqué à son instigation. Une lettre que je reçus le lendemain, sans date ni adresse, mais qui était visiblement de la main de ma femme, me confirma dans cette opinion. La première ligne m'informait que le couteau était rentré en sa possession. La seconde me rappelait le jour où je l'avais frappé. La troisième me prévenait qu'elle laverait cet affront dans mon sang et répétait ses propres paroles « Je le ferai avec ce couteau ». Tout cela se passait il y a 1 an. La justice a mis la main sur les hommes qui m'avaient volé, mais jusqu'à cette heure, elle a complètement échoué dans ses recherches pour mettre la main sur le couteau de ma femme. Mon histoire finit ici. Quand j'ai eu payé mes créanciers et mes frais judiciaires, il m'est resté à peine 5 livres du produit de la vente de ma maison et j'ai dû recommencer à courir le monde. Il y a quelques mois, en allant ça et là, j'arrivais à Underbridge. Le maître de l'auberge a un peu connu autrefois la famille de mon père. Il me donne tout ce qu'il peut me donner, la nourriture et un abri. Excepté les jours de marché, il n'y a rien à faire ici. L'hiver prochain, l'auberge sera fermée et je devrai me tirer d'affaire comme je pourrai. Mon ancien maître viendrait à mon aide si je m'adressais à lui, mais je n'aime pas me rendre importun et il a déjà fait pour moi plus que je ne méritais. D'ailleurs, qui sait si l'année prochaine ne verra pas la fin de toutes mes peines? L'hiver prochain me rapprochera d'un nouvel anniversaire de ma naissance, et ce nouvel anniversaire peut être le jour de ma mort. Oui, il est vrai que j'ai veillé toute cette nuit et que j'ai entendu sonner 2 heures sans qu'il me soit rien arrivé. Je l'avoue, mais je ne puis me fier à l'avenir. Ma femme a retrouvé son couteau, ma femme a les yeux sur moi. Je ne suis pas superstitieux, croyez-le, je ne dis pas que je crois aux songes, je dis seulement « Alice Warlock a les yeux sur moi ». Ai-je tort? Ai-je raison? Qui le sait ?